Chapitre 49. Le repli du mur avait craché une trentaine de solbos. Le roulement des chenilles sur le béton soulevait un vacarme assourdissant. Le bataillon scintillant louvoyait en rang serré entre les chiens couchés, les cadavres des slangues, les bondes des cuves et se dirigeait à une vitesse constante vers les aquariotes serrés en bas de la rampe. Solman discernait les aigles aux ailes déployées gravées sur les troncs cylindriques, les trois groupes de six chiffres, les sigles DARPA, NASTI, USA. Au-dessus des rectangles verts qui renfermaient les étoiles et les croissants de lune.
« Je savais bien que les chiens seraient impuissants face à ces putains de solbos !»
glapit Moram.
« Y a plus qu'à se tirer, vite fait !»
Quelques hommes n'avaient pas attendu sa suggestion pour s'élancer sur la rampe. La main de Khadija se glissa à nouveau dans celle de Solman et la pressa à plusieurs reprises. Il se demanda dans un premier temps ce qu'elle cherchait à lui signifier. Puis un grand calme se déploya en lui, dispersa ses inquiétudes. Et il comprit qu'il n'avait plus rien à craindre des anciens soldats mécaniques de la coalition IAA.
« Inutile de courir !» dit-il. « Ils ne nous feront aucun mal !»«
Hé, ce sont des saloperies de machines, boiteux !» protesta Moram. « Elles bombardent tout ce qui bouge sans distinction !»«
Il est plus facile de commander aux machines qu'aux chiens. »«
Il n'a pas tort, » intervint Ismaïl. Ce ne sont que des machines. Il suffit d'en changer la programmation pour modifier leur comportement.
Et qui va s'en charger, hein? C'est vous qui allez plonger les mains dans leurs narines?
La voix de Moram s'étrangla. Sa fébrilité grandissait au fur et à mesure que les solbos se rapprochaient. Volets circulaires béants, canons des armes bien en évidence. D'autres hommes, incapables de maîtriser leur panique, se détachaient du groupe comme des feuilles arrachées par le vent.
« Lui s'en est déjà chargé, » dit Solman.
Il désignait l'ange qui venait à son tour de surgir du repli du mur et marchait derrière les soldats mécaniques d'une allure aérienne. La lumière des ampoules donnait à son visage un aspect blafard et accrochait des reflets mordorés dans les boucles de sa chevelure noire. Solman était désormais convaincu qu'il s'était rendu maître des solbos de la même manière qu'il avait soumis la horde de chiens. Pour certains aquariotes, en revanche, le doute était permis. Et cédant à l'affolement, ils refluèrent à toutes jambes vers la sortie du bunker. Un coup d'œil à Glenn, immobile malgré la frayeur qui lui agrandissait les yeux, convainquit Moram de rester en compagnie du donneur, de Khadija, de Wolf et d'Ismaïl. Il n'allait tout de même pas se montrer plus froussard qu'un enfant de 6 ans, qu'un vieillard terrorisé par les rats. Qu'un scorpiote, qu'une fille, qu'un boiteux. Ses index tremblaient sur les détentes de ses revolvers. Des armes d'hommes, des armes dérisoires face aux robots. Les hommes, au moins, on pouvait lire la lâcheté, la colère, la sournoiserie, la détermination dans leurs yeux. Tandis qu'on ne décelait aucune intention, aucune faille, dans les miroitements des pièces métalliques des machines de l'ancien temps. Le bataillon mécanique avança à une dizaine de pas de ce qui restait du groupe d'exploration. La sueur liquéfiait Moram dans ses vêtements. Les canons télescopiques se rétractèrent subitement, les volets circulaires se refermèrent, les chenilles cessèrent de rouler, et les solbos se figèrent dans un dernier claquement qui résonna un long moment dans le silence restauré de la salle. L'ange traversa les rangs des robots désormais inertes, se dirigea vers Khadija, et comme sur le plateau enneigé du massif central, s'inclina devant elle. Moram lui aurait bien logé une balle dans le crâne, histoire de faire payer à quelqu'un les quelques minutes de trouille qu'il venait d'endurer et qu'il l'avait laissé aussi tremblant qu'un oisillon tombé du nid. Mais il y renonça, craignant de réveiller en sursaut le peloton mécanique. Pas sûr de toute façon qu'une balle eût un quelconque effet sur cette créature. Et puis l'ange avait rallié la cause humaine, comme le prouvait sa posture, son geste d'allégeance. Ses chiens, en nettoyant le bunker, d'une façon horrible certes, mais les atrocités sont le lot courant de la guerre,
avait épargné de nombreuses vies aquariotes. Peu importait qu'il fût issu de mondes incompréhensibles, inaccessibles, peu importait qu'il fût d'essence magique ou démoniaque, seul comptait le présent, la survie des derniers hommes. Encore fébrile, le chauffeur verrouilla l'écran de sûreté de ses revolvers et les glissa dans la ceinture de son pantalon.
« Maman Raïma !»
Glenn fut emporté par les sanglots avant d'aller au bout de sa phrase. Solman lui posa la main sur le crâne pour l'apaiser. « J'y vais !» murmura-t-il. « Est-ce que tu lui as dit au revoir ?»«
Elle m'a serré très fort avant de m'envoyer te chercher. »
Solman s'accroupit pour descendre son visage à hauteur de celui du garçon.
« Tu ne la reverras plus, tu le sais. »
Il s'était glissé entre deux voitures dans l'une des salles en enfilade au premier niveau du bunker. Le vent s'engouffrait à flots par les larges ouvertures qu'au cours de l'après-midi les solbos avaient découpées sur les murs à l'aide de leurs micro-bombes. « Curieux endroit, » s'était étonné Ismaïl. « À quoi peut bien servir cette rampe d'accès entre les étages si les engins n'ont pas la possibilité de franchir les portes ? Je suppose que les soldats de la Troisième Guerre mondiale ont rebouché en catastrophe les entrées pour interdire à ceux d'en face de s'emparer de la réserve d'essence. » Les solbos s'étaient avérés précieux, non seulement pour créer des passages, mais également pour aider les aquariotes à adoucir la pente de l'excavation. Ils avaient sondé le terrain avec leurs capteurs tapissés de filaments souples, déposé des charges aux endroits appropriés et provoqué un éboulement qui avait formé la base d'une rampe franchissable. Il avait suffi aux hommes de l'étayer avec des pierres et des poutrelles de béton récupérées dans les décombres environnants et de la niveler avec de la terre. L'un après l'autre, au ralenti, les camions s'étaient introduits à l'intérieur du bunker, au préalable débarrassés des cadavres des slangs qu'on avait jetés dans une fosse commune. On avait décidé d'installer les voitures et les remorques dans les salles du premier niveau, pour éviter aux aquariotes d'inhaler les émanations d'essence qui, selon Ismaïl, risquaient à la longue d'entraîner des complications respiratoires. Les camions et les citernes, eux, restaient répartis sur la rampe d'accès à la salle souterraine. Les chauffeurs devraient démonter les réservoirs, les transporter à l'extérieur, les vider de leurs reliquats de gaz liquide, les nettoyer, puis les remonter et changer les réglages des carburateurs pour rouler à l'essence. Un travail qui leur prendrait, d'après les premières estimations, entre 1 et 2 mois. Aura, la dernière sourcière aquariote, aurait donc la lourde tâche de prévenir la pénurie d'eau potable en rabdant les cuves disséminées dans les ruines de la ville. Si les hommes de l'ancien temps avaient prévu de telles quantités d'essence, ils avaient, selon toute probabilité, pris la précaution d'enterrer de l'eau potable dans le secteur. La consigne avait été transmise de ne toucher sous aucun prétexte la substance toxique, mortelle, qui enduisait les murs. Les parents avaient aussitôt entrepris de conditionner leurs plus jeunes enfants. On avait vidé les contenus des remorques et dressé un rapide inventaire des ressources. Quelques tentes avaient fait leur apparition dans les espaces libres. Des fils à linge s'étaient tendus entre les voitures. Les premiers braseros s'étaient allumés et avaient répandu une odeur familière de bois brûlé. Les bacs s'étaient remplis d'une eau rationnée et réchauffée dans des récipients métalliques. Les enfants avaient à tour de rôle hurlé dans les bains dont ils avaient oublié les désagréments. Quelques adultes les avaient remplacés avec un plaisir indicible. Bien que l'eau fût partiellement refroidie et déjà noire du savon et de la crasse de leurs prédécesseurs, des hommes et femmes chunes les avaient imités, se défaisant en même temps que de leurs vêtements, de leurs vestiges de pudeur. Des morceaux de viande et des galettes de céréales avaient grillé sur les braises. Les bouteilles de vin aigre avaient circulé de lèvre en lèvre. Les brassées de rire s'étaient entrelacées comme des guirlandes sonores sous les plafonds. Les aquariotes et les rescapés chunes s'installaient en prévision des 4 à 8 semaines de séjour à l'intérieur du bunker. « Tu as ce que je t'ai demandé ?» dit Solman. Glenn lui tendit
avec réticence, un petit flacon en verre, empli d'un liquide visqueux. « Ça t'embête de me le donner ?» demanda Solman.
« Les plantes, c'est fait pour guérir, pas pour tuer. »
Solman s'empara du flacon, puis, de sa main libre, caressa la joue du garçon. Autour d'eux, les cris et les rires s'amplifiaient au fur et à mesure que se vidaient les bouteilles de vin. Le jour déclinait, les courants d'air balayaient les panaches de fumée, les lueurs des braseros projetaient des ombres déformées et gesticulantes sur les murs. « Tu es un bon guérisseur, Glenn. Le peuple aquariote a beaucoup de chance de t'avoir.
Il ne m'aurait pas eu si tu ne m'avais pas sauvé la vie.
Je ne t'ai pas sauvé, mais la vision à travers moi.
Je ne guéris pas non plus les gens, mais les plantes à travers moi. »
dit le garçon d'un air sérieux qui contrastait avec ses rondeurs enfantines. Solman sourit. Non, le peuple de l'eau ne mesurait pas sa chance de compter un tel guérisseur dans ses rangs. Il arrive parfois que la mort soit la seule issue souhaitable, reprit-il à voix basse. Raïma a déjà trop souffert. Si j'avais été plus courageux, elle serait délivrée déjà depuis longtemps.
Je vais avec Ismaïl. « M'occuper des malades !»
bredouilla Glenn. Il renifla bruyamment, mais ne parvint pas à endiguer une nouvelle montée de larmes.
« C'est le meilleur hommage à rendre à ta mère !»
approuva Solman. Le garçon baissa la tête, pivota sur lui-même et disparut en sanglotant à l'angle de l'une des voitures. Solman se redressa et attendit que s'apaisent les élancements de sa jambe gauche avant de se mettre en marche vers la voiture de Raïma. Elle se trouvait dans la deuxième salle du niveau supérieur du bunker, la première étant réservée aux guetteurs, aux solbos et à l'ange entouré en permanence d'une partie de la meute. Le danger le plus à craindre désormais était l'irruption d'un essaim d'insectes génétiquement modifiés. Mais Khadija avait assuré à Solman que l'ange avait le pouvoir d'arrêter les minuscules tueurs venimeux avec la même efficacité qu'il avait neutralisé les robots. « Les insectes sont des serviteurs inférieurs dans la hiérarchie de l'escato, comme les chiens. Ils n'ont pas d'autre possibilité que d'obéir aux serviteurs intermédiaires, aux anges. »
« Et les solbos ?»
Ce ne sont que des machines, des assemblages grossiers de métal et de puces au silicium, des créatures des hommes. Ils n'appartiennent à aucun règne. Il a suffi à l'ange de les déprogrammer, puis de les reprogrammer, comme l'avait suggéré Ismaïl. Solman avait ensuite confié à Khadija qu'une tâche désagréable mais indispensable l'attendait, et qu'il avait besoin d'être seul pour l'accomplir. Il se fraya un passage entre des grappes d'hommes et de femmes surexcités qui le saluèrent avec des révérences grotesques. Cette nuit, les chauffeurs stimulés par le kawa, échauffés par le vin, pourraient enfin oublier les heures épuisantes de conduite dans les bras de leurs épouses ou de leurs maîtresses. Les barrières des convenances tomberaient, comme lors des derniers jours du grand rassemblement, ou avant de se disperser sur les pistes d'Europe, les peuples nomades s'étourdissaient dans une bacchanale effrénée où, hormis les albènes cloîtrées dans leurs tentes, les couples se faisaient et se défaisaient au gré des rencontres, des humeurs, des circonstances. Raïma était seule. Elle occupait toujours le bas de la couchette double dont elle gardait les rideaux tirés. Les blessés et les malades avaient été transportés dans le dispensaire de toile où officiait Glenn. Des âmes charitables s'étaient occupées quelques heures plus tôt de nettoyer la voiture, de l'aérer et de renouveler les diffuseurs d'essence. Il écarta les rideaux et la découvrit allongée sur le matelas. Comme elle ne tolérait plus le moindre contact avec les étoffes, elle ne portait aucun vêtement ni n'acceptait de drap. De son corps, gisant dans la pénombre, montait une odeur pestilentielle. Repoussante. Solman la crut morte, car elle ne bougeait pas. Puis, elle perçut sa présence et remua faiblement. Il entrevit alors l'éclat de ses yeux au milieu des excroissances qui proliféraient sous la tache sombre de sa chevelure. Il y lut une souffrance dont l'intensité lui coupa le souffle, le vida de ses forces. Il s'assit sur le bord de la couchette. Il demeura prostré pendant un long moment, avant de sortir de la poche de sa canadienne le flacon qui contenait le suc des plantes grimpantes recueillies par Glenn.
Tu viens me donner le dernier baiser, Solman, le poète.
La voix de Raïma, pourtant ténue, presque inaudible, le fit tressaillir. Il avait présumé, au dire de Glenn, qu'elle avait définitivement perdu la raison. Elle ne lui faciliterait pas la tâche. Elle ne transigerait pas avec sa propre mort. Elle lui imposerait jusqu'à la fin une épreuve à la démesure de sa personnalité. Il souleva précautionneusement le bouchon du flacon. L'odeur amère du poison chassa pendant une poignée de secondes la puanteur de la chair transgénosée.
« Brûle, brûle mon cadavre. Je ne veux pas être enterré dans ce corps.
Je le ferai, dit Solman.
Il prit conscience de la douleur aiguë à ses vertèbres cervicales, s'aperçut qu'il se tordait le cou pour éviter de la regarder. La vue, le sens le plus trompeur, le juge des illusions. Alors il se tourna franchement vers elle, s'astreignit à la contempler, à franchir le barrage des apparences, à la voir dans son intégrité, à la rejoindre dans le monde des âmes. Il rencontra une femme qui avait beaucoup d'amour à déverser et n'avait trouvé personne pour le recevoir, pas même lui, qui s'était abreuvé comme un voleur à sa source intime. Une femme magnifique, trop fragile pour ses semblables, qui avait en vain cherché le partage dans les bras de rustres de passage. Une femme pure qui avait dressé des épines sur son corps pour affirmer son exigence, pour éloigner les faibles leurrés par les sens. Il avait fait partie de ces faibles. Et pourtant, elle s'était donnée à lui avec une générosité sans limite.
Glenn est assez fort. Il se débrouillera. Je n'ai pas peur. Pour lui. Pour moi. Je suis heureuse de partir. J'ai eu un peu de bonheur avec toi. Lis le livre de la religion morte. Lis-le. Je sais que tu me rejoindras bientôt. Bientôt. Je t'aime, Solman.
Il se rapprocha d'elle, localisa sa bouche où ce qu'il en restait parmi les excroissances dont certaines avaient la grosseur d'un poing. Seuls ses cheveux avaient gardé leur forme et leur texture d'origine. Il lui passa la main sous la nuque et la souleva légèrement pour introduire le goulot dans la cavité. Ses larmes se mirent à couler en même temps qu'il déversait le poison des plantes grimpantes dans le corps de Raïma. Elle rendit le dernier souffle avant même que le flacon ne se vide. Sans un spasme, juste une exhalaison prolongée, un souffle, qui s'envola dans l'air confiné de la voiture. Il la reposa délicatement sur le matelas, puis, la tête enfouie dans les excroissances de sa poitrine, pleura en silence, jusqu'à ce que la nuit envahisse le bunker. Moram et Wolf avaient exécuté ces consignes, bien que le chauffeur eût tiqué à l'idée de gaspiller du bois pour brûler un cadavre.
« Déjà qu'on risque d'en manquer, l'hiver sera long. »
Le bûcher se dressait au sommet de la colline qui dominait l'entrée du bunker. Quatre chiens avaient suivi Solman lorsqu'il était sorti dans la nuit, ployant sous son fardeau.
Des guetteurs avaient proposé de l'accompagner, mais il avait décliné l'offre. Il se doutait cependant que Wolf le suivait à distance. Gardien intransigeant, ombre dans les ténèbres. Le poids de Raïma enroulé dans une couverture lui martyrisait la jambe gauche, mais il refusait de le poser au sol, ne serait-ce que quelques secondes, même au milieu de la pente raide et instable. Le visage fouetté par des flocons épars, il s'évertuait à suivre les empreintes tracées dans la neige fraîche par les hommes chargés de la corvée de bois. Les chants et les cris du peuple de l'eau décroissaient avec une lenteur désespérante. Les chiens tournaient autour de lui, en poussant des jappements plaintifs. Lorsqu'il atteignit enfin le sommet, il allongea le corps de Raïma sur les bûches au prix d'un dernier effort qui lui brisa les reins. Les hommes avaient prévu du petit bois, des bouts d'étoffe enduits de résine et un briquet à gaz posé en évidence sur une pierre. Il eut besoin d'un bon quart d'heure pour récupérer, assis sur une traverse métallique, la jambe gauche assaillie par une douleur effroyable. Il alluma le bûcher. Le feu, giflé par le vent, dévora le bois avec un appétit effarant. Le corps de Raïma s'enflamma, mais, étrangement, ne dégagea pas d'odeur, comme si elle n'avait jamais appartenu à ce monde. La chaleur entraîna Solman à se reculer. Les larmes aux yeux, il contempla la fumée grise qui montait vers le ciel, aussi légère et joyeuse que l'âme enfin libre de la guérisseuse.